Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une invention nouvelle qui a déboulé récemment et dont vous tous avez entendu parler. Il s'agit d'une application de Microsoft qui est un logiciel absolument étonnant de conversation qui répond à toutes les questions et qui permet de faire des recherches d'une manière amplifiée et de les reconstituer en plus en un récit qui évidemment bouleverse les habitudes, on peut dire les habitudes intellectuelles, et notamment la possibilité de créer des dissertations sur les sujets les plus divers, s'appuyant sur une banque de données de plusieurs milliards de données qui a été collectée par une société, donc qui a été rachetée par Microsoft. Alors donc il s'agit de, je vous l'ai dit en anglais, donc c'est chat, ce qui veut dire conversation, c'est le Generative Pre-trained Transmitter, qui en français est un acronyme assez bizarre qui peut susciter l'hilarité puisqu'il s'agirait de chat GPT. Alors d'abord on peut ironiser sur le fait que la machine, on peut dire avec toute l'intuition de l'informatique, n'ait pas réussi à trouver un acronyme qui dans une langue véhiculaire comme le français ne soit pas aussi ridicule. Bon, ça c'est une réflexion personnelle, mais le propos d'aujourd'hui, évidemment, c'est d'aller au-delà et de poser des questions, on peut dire des questions existentielles, qui sont liées à cette étonnante, ce n'est pas une découverte, mais en tout cas, c'est une utilisation pratique qui va bouleverser certaines habitudes, notamment dans le domaine de l'éducation, la possibilité de faire d'une manière beaucoup plus rapide que ce qui avait été jusqu'ici le cas et qui était déjà une révolution, c'était les copier-coller de Wikipédia. Et là, en fait, ça va beaucoup plus loin puisqu'en fait, ça peut les articuler, les constituer comme un récit parfaitement construit. Alors, évidemment, le bouleversement est un bouleversement par rapport au travail, et la question qui est liée à cela, c'est la révolution que ça pourrait induire dans de nombreux métiers. Alors, par exemple, il y a une personnalité très connue qui a été le créateur d'un site qui s'appelle Doctolib, qui est Philippe Alexandre, et bon, qui est un multidiplômé, qui est un chirurgien qui a fait l'ENA, et qui est un entrepreneur, chroniqueur à succès. Et récemment, sur une radio périphérique, il commentait cela en disant d'une part, il ne faut pas en avoir peur, et de notre part, il disait, ça va bouleverser notre vie. C'était un peu du macronisme avec les deux aspects positifs et négatifs à la fois. Alors on peut s'interroger sur la deuxième partie en disant, bon, quel bouleversement, même si ces bouleversements sont positifs, est-ce qu'il y a vraiment une révolution en vue? Alors, évidemment, se pose d'une manière plus générale, c'est le rapport à la robotisation, et en élargissant le propos, on peut dire le rapport à la mécanisation en général. Alors, c'est vrai que cette question n'est pas une question d'actualité, c'est une question déjà bien ancienne, qui est le rapport à la technologie, qui est le rapport à la machine, et surtout depuis l'invention des moteurs qui remplacent la force animale et aussi la force humaine, ou disons la force animale qui était additionnée ou substitue à la à la force humaine qui était la seule existant, on peut dire, dans les temps reculés. Donc cette révolution, elle date de peu de temps. Il s'agit évidemment du 19e siècle, mais nous y vivons dedans. Et là, nous sommes devant une inquiétude de voir l'intelligence artificielle, je mets l'intelligence artificielle entre guillemets, remplacer les humains. Alors ça, c'est, comme je vous disais, c'était une grande peur de l'humanité, et Alexandre, dans son propos, disait que l'intelligence n'était pas une spécificité de l'humain. Alors là, évidemment, on pourrait discuter sur cela, bon, je peux le faire d'ailleurs, en disant, bon, je ne crois pas du tout, je crois que l'intelligence et fait partie de la caractéristique de l'humain qui se distingue de l'animal. Alors l'animal a des comportements que l'on peut qualifier d'intelligents, mais enfin ils sont liés par l'instinct et ils sont dans le cadre du rapport de l'animal dans son environnement. Et on peut dire c'est balisé par l'espèce même animale, ce qui n'est pas le cas de l'humain qui lui, par définition, est une espèce désirante et cherche à être autre chose de ce qu'il est et d'avoir une situation différente de celle qu'il a, ce qui n'est pas le cas de l'animal qui, une fois qu'il est dans une situation optimale, ne cherche pas à devenir autre chose que ce qu'il a ou de ce qu'il est. Donc là déjà, bon, c'est un premier désaccord. Et puis le désaccord fondamental, c'est que est-ce que cette intelligence peut être artificielle? Et là aussi, c'est une question dans laquelle on a parlé, par exemple, pour revenir au cœur de notre émission, qui porte sur le cadre de vie et sur l'architecture, on a parlé, il y a déjà, on peut dire, une trentaine d'années, de conception assistée par ordinateur. Alors, bon, oui, ça peut exister dans certains domaines, mais dans le cas de l'architecture, effectivement, j'ai déjà dans cette chronique parlé du rapport entre le dessin et l'ordinateur. Bon, je ne vais pas revenir sur ça aujourd'hui, mais ce qui permet effectivement de simplifier les tâches, et notamment des tâches de répétition ou des tâches de bibliothèque et de reproduction, effectivement, l'ordinateur est un outil absolument merveilleux, indispensable, mais de toute façon, il a sa propre limite et il ne franchit pas ce qui est justement le domaine de la conception. Et dans le cas de l'architecture, je crois que là, il s'agit dans l'heure et puis que ça ne s'est jamais produit au-delà de ces tâches que je dirais mécaniques et quelque part subalternes. Donc, la question de savoir la machine va remplacer l'homme, évidemment, l'intelligence artificielle n'est pas une intelligence. Et donc, elle n'est que l'intelligence de ce que l'homme lui-même a mis dans la machine et qu'il va répercuter, qu'il va accélérer. Et dans le cas, par exemple, des bibliothèques, puisqu'il s'agit de compulser des milliards de données, il est évident que s'il fallait le faire à la main ou à travers les livres, ça serait très très long et que la prouesse de l'informatique, c'est qu'en quelques secondes, on accède à des jours, même peut-être même des mois et des années de compilation, et on arrive à le faire dans l'instant. Mais cette rapidité, c'est juste de la rapidité. C'est-à-dire, c'est comme si un bibliothécaire vous donnait la réponse parce qu'il aurait tout lu les livres et il aurait une mémoire il aurait tout lu les livres de sa bibliothèque et il aurait une très grande mémoire. Donc, tout ça est un progrès, une accélération dans cela, mais il n'y a pas un véritable changement de nature. Alors, Philippe Alexandre citait un joueur d'échecs, je crois que c'était Kasparov, qui avait fait une dépression parce qu'il avait été battu par la machine. Oui, mais là, il s'agit des échecs, il s'agit de séries mathématiques, et effectivement, il y a un nombre même très important, et le joueur d'échecs, c'est celui qui, par son intuition, est capable de trouver ou d'inventer des nouvelles combinaisons pour pouvoir battre son adversaire, mais on est toujours dans de la compilation. Donc, effectivement, il a été battu par un humain qui a mis des données et des coups qu'il peut-être ne connaissait pas ou qu'il avait oubliés et qui ont été intégrés dans l'ordinateur. En fait, il a été battu que par lui-même. En fait, il ne s'agit pas d'une défaite de la pensée et d'une défaite de l'humanité. Rappelons encore une fois que les échecs, même si on peut trouver absolument prodigieux, c'est mon cas, les joueurs d'échecs d'une manière générale et les grands maîtres évidemment en particulier, mais il ne s'agit pas de domaine de création comme la création artistique ou les inventions d'objets ou même, je pense, une grande partie de la recherche scientifique qui demande des facultés de raisonnement, d'intuition et je pense que on est quand même loin du compte avec les robots par rapport à cela pour remplacer les artistes et les scientifiques. Voilà donc la première partie de mon propos et je voudrais développer ensuite ce rapport qui est une crainte de voir l'homme remplacé par la machine et de ce fait de se trouver devant du non-emploi, donc une mutation de la société qui serait très importante et ça ouvrirait sur quoi? Ça ouvrirait sur une société qui serait sans travail ou pour une grande partie de la population ou une société de loisirs. Alors il est évident que par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, avec la question des retraites et la question de la partie travail opposée à la partie non-travail, la partie loisirs ou la partie oisiveté ou la partie paresse, comme dit Madame Rousseau, le droit à la paresse, on se trouve sur des questions, encore une fois, existentielles sur la société, et je voudrais un peu tempérer ces propos avec, notamment, pour revenir au sujet de notre émission qui est celle du cadre de vie et du bâti et de l'architecture, voir quel est l'impact que ça peut avoir et quelles sont aussi les possibilités de penser la société différemment peut-être que ces craintes que nous avons aujourd'hui. Bon, on fait une pause musicale et on va continuer ensuite.
Je n'ai pas choisi mon école.
abordons à notre sujet le travail et les conditions de travail, on peut dire, et la répartition qui peut être faite entre les travaux pénibles. Effectivement, ça pose ce problème de la retraite, de la pénibilité, et les travaux, ou du moins le travail qui est épanouissant et qui n'est pas du tout, qui ne produit pas du tout de, si ce n'est peut-être pas de la fatigue, mais en tout cas une destruction du corps et un avancement de l'âge des maladies et de la mort. Donc il est évident que les machines sont un grand progrès et on peut dire qu'elles sont diffusées d'une manière générale à peu près dans tous les secteurs. Alors pour venir au secteur bâtiment, il est certain que la partie qui était la plus ingrate, celle qui demandait le plus de personnes, c'était les fondations, c'était les changements de terrain, c'est-à-dire les quand il fallait aplanir une colline pour faire un plateau, quand il fallait déplacer de la terre pour creuser des canaux, et puis les fondations pour créer des bâtiments, on avait des tâches pénibles, répétitives, qui demandaient une main-d'œuvre non spécialisée et qui évidemment se distinguait déjà des tâches beaucoup plus fines, beaucoup plus intéressantes et moins pénibles des métiers. Alors même si il fallait porter des charges et que les choses n'étaient pas simples, et par exemple un métier comme celui de plâtrier il y a encore quelques décennies, qui était un métier très très lourd, il fallait pour faire des plafonds, par exemple, ce qu'on appelait tirer le plâtre avec à la force des bras, et c'était une position extrêmement pénible et fatigante pour le cœur, et effectivement, c'était des métiers à très forte pénibilité qui sont remplacés aujourd'hui par le plâtre et par des machines qui lèvent les plaques et qui font qu'on n'a pas à porter des charges lourdes. Bon, tout cela est une chose tout à fait positive qui peut être étendue d'une certaine manière. Alors, le recours à l'immigration, puisque je vous parlais des problèmes actuels de la société, de quoi parle-t-on ? On parle des retraites, qui est au cœur de ce débat, et on parle aussi de l'immigration. L'immigration venant pour faire ses tâches, c'est-à-dire qu'en fait, si on avait une main-d'œuvre immigrée, peu payé, corvéable et merci, qui ne demande rien, et qui d'ailleurs peut être payé au noir sans bénéficier des avantages sociaux, ben on aurait une sorte de sous-humanité d'esclaves. Je suis extrêmement surpris quand je vois des personnalités, pas forcément politiques, mais enfin du monde, on peut dire intellectuel, ne serait que par exemple Alain Minc, qui dit qu'on a besoin d'immigration parce que on a besoin d'immigration, qui c'est qui va changer les couches des vieux? Bon, c'est extrêmement choquant parce que on aurait donc une classe et les enfants de ces gens-là aussi, ils seraient condamnés à ces tâches-là. Donc la question est autre. La question, c'est que il faut payer les gens suffisamment pour que ces tâches qui sont considérées aujourd'hui comme difficiles et rebutantes, qui fait qu'il y a un grand nombre de chômeurs en France qui ne veulent pas prendre ces métiers. Bon, on peut les comprendre, mais le seul moyen, c'est de les revaloriser en les payant. Et on sait très bien que si les gens sont bien payés, ils accepteront de faire des tâches. Et puis là, on a aussi des aides de machines, d'appareils qui font que ce qui était contraignant peut le devenir moins. Donc ça, c'est un point qui me semble très important. Et pour revenir donc au bâtiment et à ces tâches dont je parlais, qui étaient qui sont aujourd'hui supprimées. Évidemment, un bulldozer et toutes ces tâches qui étaient celles de faire des routes, celles de creuser des sous-sols et de faire des fondations, tout ça est assuré par la mécanique et de plus en plus. Donc, on est devant des choix qui vont être des choix, on peut dire, plutôt de valeur. Donc, il y aura des métiers qui sont aujourd'hui, qui sont impactés par cette mauvaise réputation. Et je parle des métiers des bâtiments, dans lesquels il y a du mal de trouver, pour trouver des, de trouver des gens, de trouver des employés pour justement cette mauvaise réputation. Alors, ce qui est bien plus grave, c'est que même si on comprend que ces tâches sont difficiles, il y a un grand nombre de tâches dans le bâtiment qui sont des tâches non seulement, on peut dire, valorisantes, des métiers artisanaux qui sont de grande valeur à la fois sociale, mais également qui ne nécessitent pas des efforts physiques. Et encore plus grave, il y a les métiers, on peut dire, d'encadrement, et on peut dire même les métiers donc bureaucratiques qui sont liés à ces industries, à ces activités qui sont celles du bâtiment et donc de la construction et de l'architecture, bah, qui ont de la peine à trouver. Donc les gens, j'ai vu le cas notamment de fils d'entrepreneurs qui demandaient à rentrer dans les écoles d'architecture pour des métiers qui sont aujourd'hui plutôt mal payés et qui ne prenaient pas la succession de l'entreprise de leur père, ce qui est quelque chose un peu inquiétant, me semble-t-il. Alors là aussi, il y a un phénomène qui est un phénomène français. Il y a un phénomène français, et sans vouloir penser que le bonheur est ailleurs, mais il y a dans les pays, on peut dire anglo-saxons, mais en tout cas aux États-Unis notamment, il n'y a pas cette coupure qui est historique en France entre l'aristocratie qui, elle, ne travaillait pas et le menu peuple. Et puis il y avait aussi les bourgeois, il y avait les paysans, les travailleurs, donc des classes sociales. Et nous, je pense que nous sommes impactés par notre propre histoire, ce qui est assez naturel. Et les États-Unis, où un peuple de migrants est venu confronté à un monde qui était sauvage, entre guillemets, ce que l'on appelle le wilderness, c'est-à-dire un monde que les Européens ne connaissaient pas, qui était des immenses étendues de terres et de forêts, et qui n'avaient jamais été cultivées, ou tellement peu, qu'on se trouvait devant cette obligation pour tout le monde de participer à des tâches qui étaient des tâches physiques. Donc il y a, je crois, dans l'histoire du peuple américain, cela, et même si aujourd'hui cette société américaine a déporté ces tâches-là sur d'autres pays, notamment l'Asie, et pour se conserver les tâches les plus virtuelles, comme celle justement dont on a parlé en début d'émission, de l'informatique et de la nouvelle économie. Mais il n'en demeure pas moins qu'au cœur de la société américaine, il n'y a pas cette coupure entre les tâches manuelles, et on voit ça dans les écoles par exemple, ou dans les universités, ou même la prestigieuse université du MIT, ou l'école d'art dans laquelle j'étais, où on construisait des objets de design, mais ils étaient pas uniquement virtuels, et on fabriquait, c'est-à-dire qu'il y avait des véritables usines dans les écoles, ce qui en France est quelque chose, on peut dire, si ça n'est, on peut pas dire que ça n'existe pas, mais en tout cas, c'est marginal, et ce rapport au réel est, je pense, un des problèmes. Donc, pour revenir à à notre débat sur l'architecture et les métiers du bâtiment. Il y a là une, je pense, un vivier, une mine à exploiter extraordinaire, et sachant que les machines, justement, alors sans parler des robots qui vont fabriquer des impressions 3D, des constructions, bon, ça j'y crois personnellement pas du tout, et je pense que le bâtiment est un métier d'assemblage, et que ces assemblages, ils peuvent être fabriqués à l'usine, ils peuvent être fabriqués par des machines, mais il n'en demeure pas moins que les métiers de conception sont nombreux. Ils devraient l'être encore plus, parce qu'on peut incorporer justement cette technique qui demande des hommes pour concevoir, pour fabriquer les machines et les surveiller. Et évidemment, il en reste pour moi qu'il y a aussi une grande part du métier qui est un métier d'intelligence. Et la chose dont j'ai le plus horreur, c'est quand on parle de l'intelligence de la main. Alors, pour revenir au début de l'émission où je parlais d'intelligence artificielle, bien sûr qu'il n'y a pas d'intelligence de la main. Il y a l'intelligence tout court. Et être un artisan créatif, habile et compétent, ça demande beaucoup d'intelligence, autant que d'être un bureaucrate assis derrière un ordinateur. Je dirais méchamment, même plus. Donc, la revalorisation de ces métiers est, je pense, une question d'idéologie. Et nous avons affaire, alors je vous disais, dans les deux opposés, introduire certainement de l'industrialisation dans le bâtiment, qui, contrairement à ce que pensent beaucoup d'architectes, améliorerait la qualité en faisant baisser les coûts, ce qui a été le cas dans l'industrie et que le bâtiment n'arrive pas à avoir. Et de l'autre côté, il y a aussi notre patrimoine, et notre patrimoine bâti dans un pays comme la France, qui est une source essentiel des revenus touristiques, eh bien ce patrimoine, il bénéficie d'un pauvre milliard alloué par le ministère de la Culture quand on voit les dépenses phénoménales qui sont faites dans ce secteur. Tiens, justement ce milliard, il correspond au même milliard qui a été alloué au bureau d'études McKinsey pour conseiller les ministères. Ben, je pense que on ferait bien non seulement de le doubler, mais peut-être de le décupler et de conserver le patrimoine. Et Madame Bachelot, qui était une ancienne ministre de la Culture, a récemment publié un ouvrage dans lequel elle dit qu'une grande partie de notre patrimoine mérite pas d'être conservée, notamment les églises du 19e siècle. Alors, il faut rappeler quand même que ces églises, elles marquent le paysage, les clochers, et que, bien sûr, il y a une désaffection de la religion catholique, mais cela n'a rien à voir avec ces bâtiments, qui sont des bâtiments en pierre, avec des sculptures, avec des vitraux, avec un travail de menuiserie, un travail considérable, même si ce n'est pas des monuments historiques comme les églises romanes du XIe et du XIIe siècle, ou les églises gothiques de quelques siècles après. Non, mais il s'agit de constructions, on peut dire, à l'ancienne, et qui peuvent tout à fait être visités, réhabilités, utilisés pour d'autres fonctions. Et là, se demandent des trésors des trésors de conception, des trésors également d'artisanat. Et on pourrait trouver, je pense, aujourd'hui, dans les loisirs des désœuvrés qui vont acheter des choses à bricomarché pour bricoler chez eux, des métiers extraordinaires, et la France ne manque pas de ressources par rapport à cela, ne serait-ce que de conserver la tradition de tous ces métiers qui sont les sculpteurs, les doreurs, les ferronniers, tous les métiers qui sont liés à cet artisanat dont nous avons, je crois, des exemplaires extraordinaires, et ce serait dommage que, d'une part, ces métiers disparaissent, et que, en tout cas, ils sont à même de donner, je pense, du travail à une population, mais il suffirait qu'on s'en donne la peine de le réfléchir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous souhaite une bonne semaine. Thank you.